Stromae avec Carmen sur les ondes du 105.1 Choc FM. 8h13 et on accueille dans nos studios Marc Lemire et Dominique Banoun qui intègrent le collectif Bus 1-1-2-3. Ils sont venus nous parler d'une nouvelle pièce qui s'appelle Babel et Barbarie. Écoutez ça. Au Winchester Street Theater à Toronto du 2 au 5 septembre, donc c'est vraiment dans pas longtemps. Voici Babel et Barbarie. On vient d'entendre quelques petits sons. Marc et Dominique, bonjour à vous.
Bonjour.
Salut, comment vous sentez ce matin? Merci beaucoup d'être passé dans les studios de Choc si tôt.
Merci de nous accueillir.
Avec plaisir, avec plaisir. Et donc, vrai, on est là pour parler d'une pièce qui va se jouer au Winchester Street Theater. Donc, comme on a dit, trois représentations.
En fait, quatre.
Quatre.
Donc, on commence le 2 septembre jusqu'au 5. C'est à partir du mercredi jusqu'au okay. samedi.
Et donc, cette pièce qui se joue à Toronto uniquement, mais pas pour la première fois, il me semble. Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu la genèse de Babel et Barbarie?
Donc, en fait, Babel et Barbarie a commencé en tant que Bus 1, 2, 3. C'était un spectacle multimédia qu'on avait présenté il y a 20 ans au Winchester, de nouveau. Et il y a 20 ans, c'était avec le même collectif, le collectif Bus 1, 2, 3. C'était sur le thème, justement, des relations hommes-femmes, des stéréotypes commerciaux. Comment se retrouver, justement, dans ces stéréotypes et comment s'exprimer en tant qu'individu.
Alors, comme quoi, comme stéréotype?
Oh, les stéréotypes commerciaux, par exemple, les hommes primitifs, les hommes rockers, les hommes... il y avait ces stéréotypes-là. Les stéréotypes des femmes, c'était la femme qui voulait se marier, c'était la... Et ce qui a un peu chamboulé cette relation entre l'homme et la femme, c'était une relation avec un personnage mythologique. Donc c'était un peu une allégorie assez parodique, assez drôle. On avait beaucoup de musique, on avait de la musique en direct, la vidéo en direct. Et en fait, on s'est inspiré de la même pièce pour construire une nouvelle pièce qui s'appelle Babel et Barbarie. Il faut se dire qu'en 92, il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Wikipédia. Et là, maintenant que ces plateformes ont développé il y a 10 ans, on est dans un environnement qui nous stimule, mais qui nous interpelle beaucoup. Et donc, dans toute cette cacophonie médiatique, qu'elle soit commerciale, politique ou autre, de marketing, etc., comment se définir soi-même? Donc, qui sommes-nous?
Et Marc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi, tu sens un malaise, justement, par rapport à cette ambiance qui est très médiatisée? Est-ce que c'est un peu ce qui t'a poussé à rentrer dans ce projet?
Ouais, ben c'est sûr que j'ai fait un spectacle, moi, il y a quelques années, autour de la notion d'amitié avec, tu sais, le phénomène Facebook et tout. Il y a beaucoup de nos transactions interpersonnelles qui sont médiatisées, puis c'est sûr que ça m'interpelle, ce phénomène-là, parce que c'est facile d'avoir 500 amis sur Facebook,
ouais.
Mais tu sais, dans la vraie vie, qu'en est-il? Donc, c'est sûr qu'on vit beaucoup... je sais pas, une espèce de phénomène, vivre par procuration, vivre par... ce qui est correct d'une certaine façon, ça peut nous permettre de contacter des gens dans des réseaux différents ou dans des zones géographiques autres, mais aussi, je pense qu'il faut pas perdre de vue l'aspect organique de la vie qui...
Absolument, absolument. Mais c'est intéressant de simplement voir comment se développent les interactions humaines. J'ai une petite hypothèse, excusez-moi si je vais partir à part, mais on parle souvent de ça entre amis. C'est un sujet qu'on aborde souvent entre nous. Et donc, je parlais de Tinder. Pour moi, j'essaie de dire à mes copains et copines que Tinder serait le Woodstock de notre génération. Parce que les jeunes s'y retrouvent pour peut-être, oui, faire l'amour, mais éventuellement échanger des idées, échanger des musiques, etc. C'est une plateforme où des gens qui ne se connaissent pas, mais qui savent qu'ils se connaîtraient peut-être dans un univers possible, qui viennent se rencontrer. Parfois, c'est... Donc, est-ce que votre pièce va aborder peut-être le côté, disons, qui n'est pas négatif? J'ai pas envie de dire le côté positif, justement, de cette hyper-médiatisation, mais est-ce qu'on va y toucher? Est-ce que vous allez, justement, essayer de regarder un peu les bénéfices?
On n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de critiquer, c'est plutôt un appel à la réflexion. Mmh. C'est-à-dire, donc, et je sais que le thème a l'air très sérieux, mais en fait, la façon dont on l'aborde, c'est humoristique, c'est poétique, c'est visuel, etc. Mais je crois que ce qu'on est en train de dire, c'est regardez autour de vous et prenez un peu de distance, puis déterminez qui vous êtes vraiment. Donc, Tinder, c'est une autre plateforme sociale, comme il y en a beaucoup. Et il y a bien sûr des aspects très positifs, comme disait Marc. Mais il y a aussi une surstimulation. Puis quelque part, il faut juste, je crois, prendre un peu de recul et réfléchir un peu sur qui nous sommes. Qui nous sommes par rapport à notre histoire, à notre mythologie, à notre entourage, à notre famille, etc. Donc, c'est un peu une prise de réflexion, une prise de... Oui, un appel à la réflexion. Mais c'est un appel qui est assez humoristique et poétique.
Oui, justement. Alors, où est-ce que vous avez trouvé votre humour?
Justement, dans le manque de communication. Donc, c'est-à-dire, comme on est tous, on est bilingue ou trilingue, on parle plusieurs langues. Toi aussi, je pense, Nicolas, tu parles au moins 2, 3, 4 langues.
Donc, on parle qu'en français à chaque FM.
Donc, je te parie, oui, je sais, mais on est quand même dans une situation où on parle au moins l'anglais et le français.
Ouais.
Et donc, on trouve souvent que c'est difficile d'interpréter ou traduire d'une langue à une autre. Déjà dans nous-mêmes, et pourtant on se comprend. Et donc là, la difficulté de transmission d'une idée dans plusieurs langues devient de plus en plus difficile. Donc dans la traduction, il y a toujours une interprétation, il y a un processus, il y a un filtrage. Et ça peut transformer le message. Mmh. Et donc la comédie est en fait là-dedans et dans le non-communication ou la, comment on dit ça en français, miscommunication.
Ouais, le manque de communication ou les distorsions que tu retrouves dans le message.
Ouais, ouais. Mmh. Et donc, c'est ça, on a par exemple une conférence que Marc a écrite, qui est, mais là c'est pas une question de traduction, là c'est beaucoup plus, c'est une utilisation du langage, mais pour justement obfusquer le message. Donc la conférence part de quelque chose de très vrai, de véridique, mm-hmm. et devient complètement transformée et complètement incompréhensible.
Mais au final, ouais. Si vous avez déjà été un point de presse, vous savez comme moi, donc c'est complètement absurde parfois. Surtout, je vais pas commencer à parler de Stephen Harper et ses points de presse à 5 questions, mais bon, on passe là-dessus. Mais en fait, justement, pour montrer comme quoi cet aspect de votre pièce, justement, démontre un côté absolument vrai de l'absurdité, si vous voulez, dans ce monde des médias. Alors, plusieurs procédés pour arriver à ce but. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce à quoi on peut s'attendre en tant que spectateur ou bien auditeur quand on viendra voir cette pièce qui, d'ailleurs, mesdames et messieurs, Winchester Street Theatre, très 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 beau théâtre à Toronto, du 2 au 5 septembre. Prenez vos places dès maintenant. Mais donc, oui, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre?
Donc, on a beaucoup de directs. On a de la vidéo en direct. On a une trame sonore qui joue en direct. Donc, on a, parce que le collectif est composé d'artistes multidisciplinaires, on a une chanteuse qui est comédienne, en fait, deux chanteuses qui sont comédiennes aussi. Mmh. On a deux musiciens, dont un qui est compositeur, l'autre qui est un musicien très expérimenté. On a une vidéaste cinéaste. Et donc, c'est en fait la facture éclatée de Babel et Barbarie. Tient justement de la composition du collectif. Et Marc, bien sûr, a été participant. On a, par exemple, aussi, bon, tu parlais d'humour, on a des vidéos qui sont assez drôles, qui sont des fausses des fausses pauses commerciales, okay, dont Marc a fait partie. Marc est aussi, donc Marc est super doué, Paul est très polyvalent, il nous a aussi fait les photos, vous pouvez retrouver sur le site web, mais Marc a été metteur en scène, comme il disait, et donc il nous a aidé dans, dans le travail de la mise en scène, et dans le travail créatif en tant que tel, dans, comment travailler l'inspiration pour arriver à quelque chose de plus théâtral, de plus concret. Donc c'est ça, c'est multidisciplinaire, il y a beaucoup de direct, hein. C'est comme tu disais, c'est plus c'est du théâtre d'art médiatique ou ça ressemble?
Ouais, c'est ça, en fait, c'était développé avec des ateliers de création, puis il y a eu de l'improvisation, puis on pourrait dire que cette espèce de spectacle-là repose sur la logique des rêves d'une certaine façon. Tu sais, c'est pas comme un spectacle très linéaire, mais en même temps, okay, on vit dans cette espèce de réalité-là très... ADD, là, Attention Deficit Disorder, tu sais, je veux dire, tu regardes la télé, juste le montage à la télé, la façon dont les annonces sont présentées, puis là, il y a quelqu'un qui parle, puis ton téléphone sonne, puis là, tu parles à ton ami pendant que tu es sur Facebook, puis tu sais, je veux dire, on vit, donc, si tu veux, le spectacle est une espèce de miroir de ça. En même temps, chercher un seul fil narratif, ce sera un piège, il y en a peut-être plusieurs, puis c'est un peu ça, la poésie, la poésie répond à la logique du... de ce qu'on pourrait appeler les éléments polymorphes, puis aussi la polysémie, tu sais, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sens dans un poème. Tu peux peut-être sentir que, bon, il est question de nostalgie dans le poème, ou il est question de, je sais pas, de vengeance, mais en même temps, les images claires que le poète a voulu mettre en place ne seront pas les images que toi, tu vas avoir dans ton esprit, tu sais. Et le spectacle repose un peu là-dessus. On va peut-être déceler certaines intentions, mais chaque spectateur va constituer sa propre logique d'image autour des scènes. Donc, chercher un seul fil narratif très clair, comme le théâtre conventionnel le propose. Donc, c'est pour ça que je disais que le spectacle, à mon sens, semble plus reposer sur la logique de l'art-performance, tu sais, comme je disais, qui offre une certaine polysémie, donc une pluralité d'interprétations.
D'accord. Et justement, je trouve ça très intéressant que tu parles d'interprétation du côté du spectateur ou de l'auditeur par rapport à justement ce décalage entre ce que l'auteur a voulu dire. Parce que justement, il me semble que cette pièce, si on peut parler de pièce, d'accord, est vachement interactive. Donc, en fait, c'est, je dirais presque au spectateur d'aller chercher ce qu'il en voudra. Justement, il y a donc audiovisuel, il y a donc j'utilise des images, des vidéos, des chanteurs, des acteurs, et justement une mise en scène qui donc passe d'une vignette à l'autre pour découper les sens.
C'est ça, exactement.
Très intéressant.
On dirait que tu l'as vu.
Qui sait. En fait, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et j'ai super envie de voir cette pièce. Je disais justement à quelques-uns de mes collègues ici à Choc FM, alors cette pièce-là, franchement, j'ai vraiment hâte de la voir. Alors, vous avez travaillé cette pièce pendant combien de temps?
On a commencé.
Vous préparez depuis un moment, non?
Oui, oui. Ouais. On a commencé en 2012. Mais comme tout le monde est occupé.
En 2012?
En 2012, oui. C'est là où on a commencé à faire des demandes de subventions en 2011.
OK.
On a commencé à faire des ateliers de création en 2012. Mais comme tout le monde est très occupé, ils ont tous des carrières professionnelles.
D'accord. Donc vous faites tous. Vous développez vos performances solo, ou bien ceux qui sont dans le monde du travail autrement?
Oui, donc c'est ça. Par exemple, Dominika fait des tournées en Europe, elle fait des tournées ici au Canada aussi, Marie-Claire Marcotte, donc Dominika Merola, Dominika Merola, et c'est celle qui fait les tournées. Marie-Claire Marcotte est aussi, elle travaille ses propres productions, elle est comédienne, elle est metteur en scène, donc tout le monde a des cheminements et des carrières qui sont en train de se développer, qui sont...
Donc en fait, on parle du collectif, on parle d'un collectif d'artistes et pas une troupe de comédiens ou comédiennes.
Et donc, on se rencontre ponctuellement pour des ateliers, on entend de la construction.
Les bureaux de Choc FM sont sous construction et ils assistent à commencer avant 9h du matin. Donc, on a déjà eu cette discussion-là, ils vont pas changer leur horaire, ni moi le mien, et voilà.
Non, mais juste pour terminer, c'était pour dire que c'est ça, tout le monde est... Donc, on s'est rencontrés pendant plusieurs années pour plusieurs ateliers. Et donc, on a, au fur et à mesure, développé les concepts, travaillé la mise en scène, etc.
Une question pour vous, et je la pose un peu à tout le monde qui fait une performance, quelle qu'elle soit, en français à Toronto. Pourquoi vous choisissez d'œuvrer en français dans cette ville qui est pourtant une métropole anglophone? Pourquoi pas à Montréal?
Mais ce genre de spectacle repose sur plusieurs langues, ou plusieurs. Il y a aussi le langage visuel, le langage musical, ces choses-là. On ne peut pas dire que c'est un spectacle typiquement franco, là. Je ne pense pas que.
Typique en rien du tout, je dirais.
C'est-à-dire que c'est. Non, il y a un aspect multiculturel d'une certaine façon, parce que. Il y a des anglophones dans le groupe. Ouais. Il n'y a pas, tu sais, donc... Puis il y a des gens aussi d'origine ethnique différente. Comme toi, par exemple, tu n'es pas une Canadienne pure laine, non, Dominique?
Non.
Mais de toute façon, ça existe. Mais tout le monde est métissé. Si tu remontes le fil, ça n'existe pas. C'est pure laine.
Ça ressemble à ça, un Canadien.
Tout le monde est métissé à quelque part. Moi, je pense que mon père avait du sang autochtone parce que je me souviens, quand j'étais jeune, la façon dont il bronzait après une journée au soleil, c'était incroyable. C'était, bref. Mais pour répondre à la question de la langue ici à Toronto, je sais pas, moi, j'ai plus suivi mon cœur que des idées de carrière. Je travaille en photographie aussi, donc la photographie, c'est un peu à l'extérieur là, des langues, si on veut, c'est un langage visuel. Donc, moi, j'écris de la poésie en français. Je suis capable d'écrire en anglais, mais je veux dire, la poésie, c'est la langue, pour moi, qui est enracinée dans l'enfance, l'expérience de l'enfance. C'est là que le sous-sol des mots, pour moi, se trouve. Donc, j'ai plus de facilité à aller là. Quand j'écris de la poésie en anglais, c'est moins... c'est un petit peu plus mécanique pour moi, tu sais. Alors que c'est plus organique en français. Donc, et que je sois à Istanbul ou ici, je vais écrire en français, tu sais, je veux dire, parce que c'est les images qui sont en moi. Ça ne m'empêchera pas de jouer avec d'autres langues. Puis la poésie, pour moi, ce n'est pas juste les mots imprimés sur une page blanche. T'sais. C'est pour ça que je pense que dans le spectacle, il y a de la poésie, parce que la poésie, c'est plus et avant tout une façon de regarder la vie, de s'enraciner dans le réel. Donc, il peut y avoir de la poésie au cinéma, il peut en avoir en danse, il peut en avoir en photographie, comme tu peux avoir photographie, danse et cinéma sans poésie aussi. Donc, pour moi, la ville, c'est la ville que j'ai choisi d'habiter. Puis à partir de là, tu sais.
Ouais, de toute façon, il y a une audience pour ça, c'est sûr et certain. Mais pour aborder cette idée de dissonance des langues, votre pièce s'appelle Babel et Barbarie. Ceux qui connaissent donc le mythe de Babel, quel est le lien entre... Alors pour ceux qui ne sauraient pas, en gros, le mythe de Babel dirait qu'on a essayé de bâtir jadis, il y a très 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 longtemps, une tour si haute qu'elle arriverait même à toucher Dieu, en fait, qu'on n'aurait plus besoin de Dieu pour construire ses projets monumentaux. Et donc Dieu aurait abattu les hommes qui aurait créé cette tour, il aurait détruit la tour, et comme punition pour avoir osé le défi, il leur a imposé de parler de différentes langues. C'est bien ça?
Ouais.
Je me rappelle le mythe de Babel. Alors qu'est-ce que ça vient faire là-dedans?
L'inspiration est en fait à un deuxième degré, donc c'est un auteur argentin qui s'appelle Borges, qui a écrit La librairie de Babel. Et donc, c'est à propos d'une bibliothèque qui est très fournie, universelle, mais dont le bibliothécaire lui-même cherche le code pour comprendre. Alors, c'est relié à la tour de Babel, mais c'est en fait, je pense... Enfin, moi, j'ai l'impression de vivre justement dans cette bibliothèque de Babel avec YouTube, Wikipédia, Google, etc. On a beaucoup, beaucoup d'informations, on a beaucoup de renseignements sur toutes les cultures, sur tous les événements, sur tout ce qui se passe, passé, présent et possiblement futur avec la science. Et donc, quelque part, c'est comment se trouver ou comment comprendre ce monde multisensoriel, multidimensionnel, etc.
Mais Marguerite Duras, à un moment donné, elle disait que dans les années 80, elle faisait des projections en ce qui concerne les années, je ne sais pas, 2020. Puis elle disait qu'on serait comme... que le sens existerait de moins en moins parce qu'on serait comme... on serait écrasé sous une tonne d'informations puis de discours où il y a beaucoup de discontinuité, puis il y a beaucoup de fragmentation, puis il y a un peu de ça qui arrive aussi. On peut arriver à naviguer, mais il y a beaucoup, beaucoup de... J'écoutais l'autre fois une espèce d'extrait d'une routine d'un comique américain, et il jouait avec tous les termes contemporains de la vie moderne. Donc, si quelqu'un était décédé il y a 200 ou 300 ans et qui écoutait cette routine-là, elle n'aurait aucun sens à son oreille parce qu'il y avait des mots comme data, internet, modem, Prozac. Quelqu'un qui est mort il y a 200 ans ne comprendrait absolument rien. Mm-hmm.
Donc, c'est un autre langage qui s'est développé.
Ben, c'est ça, mais on ne le voit plus parce qu'on baigne dedans. Ah. Mais, tu sais, je veux dire, disque dur, mémoire vive, tu sais, interconnexion, peu importe, tu sais, images numériques, tu sais, quelqu'un qui est mort il y a 200 ans, dirait, mais de quoi tu parles?
Mais même il y a 200 ans, je veux dire, dans 20 ans, on va vous montrer l'icône sauvegarde sur notre Microsoft Word qui représente un floppy disk.
Oui.
Ah ouais, et on ne saura même pas ce que c'est.
Ben, un téléphone.
Un fixe? Téléphone pour ta maison?
C'est quoi? La notion de téléphoner, tu sais. Moi, ma grand-mère ne voulait pas répondre au téléphone. Mon arrière-grand-mère, quand la technologie est arrivée, elle était complètement dépassée par ça. Elle ne voulait pas... Quand ça sonnait, elle ne touchait pas à ça. Elle ne comprenait pas le fonctionnement. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, ce qu'on traîne dans notre poche, on appelle ça un téléphone encore, mais on traîne un ordinateur. On ne traîne plus un téléphone. Mm-hmm. La plupart des gens vont plus utiliser le texto puis le courriel que le téléphone. T'sais. Mais non, c'est ça les choses, comme tu dis, tu as raison. Dans 20 ans, ça va être... à moins que tout...
C'est que le monde s'accélère, c'est tout.
C'est ça.
Mais d'un autre côté, ce que je me dis aussi, c'est que tout ça, c'est un autre outil. En fait, les relations sont à peu près... Le telegraph, dont on ne sert plus du tout, c'était aussi un moyen un peu comme un texto. C'est-à-dire, il y avait des caractères qui... Tu ne pouvais pas dépasser parce que sans quoi ça te coûtait plus cher, dépendant du nombre de caractères que tu envoyais. Mais un télégraphe, qui connaît ça aujourd'hui? Tu sais, ça c'était quoi dans les 1800 quelque chose? Ouais. Mais pourtant, c'était en fait le même système qu'un texto. Donc, quelque part, je pense qu'on progresse, mais aussi les méthodes de communication se servent d'outils différents, mais en fait, les méthodes sont peut-être les mêmes.
Mais c'est surtout que notre cerveau ne change pas énormément en 200 ans, 300 ans. Ouais. Comme la médecine contemporaine essaie de nous faire avaler la notion des gènes quand on veut expliquer la dépression. Ah, t'as le gène de la dépression, t'as le gène du cancer. Mais tu sais, les gènes prennent des milliers d'années à changer. Si tu regardes des rats ou si tu regardes des singes ou des humains. Donc, le cerveau qu'on a actuellement... est assez similaire à celui qu'on avait il y a 300 ans, 400 ans, mais on essaye avec la technologie de nous dire qu'on devrait vivre autrement. Et c'est là, pour moi, le grand piège, c'est qu'il y a une façon organique de s'enraciner dans le réel. Il y a aussi une façon plus métaphorique avec la technologie, mais être complètement absorbé par la technologie puis perdre de vue cet enracinement organique-là qui est nécessaire à notre façon de respirer, notre façon de si on veut, de computer l'information, pour moi, c'est un piège énorme, tu sais. Mm-hmm. Puis on voit, écoute, là, je m'excuse, là, mais quand on dit que les enfants sont médicamentés à 50 % là, pour déficit d'attention puis tout ça, en 20 ans, augmenter le taux de médication à ce point-là, il y a un problème, là, qui n'est pas de l'ordre des gènes, qui est plus de l'ordre de la façon dont on décide de négocier le réel. Et c'est ça, pour moi, le piège de la technologie, c'est que cette rapidité-là nous déconnecte un peu de certains cycles organiques, tu sais. Bâtir une amitié, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, tu sais. Conserver une amitié, ça prend de l'énergie. C'est sûr, sur Facebook, tu peux comme « like » puis « unlike », tu sais, un bouton. Mais dans la vraie vie... Mm-hmm.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait déjà eu cette expérience. Moi, j'ai déjà fait ou défait des amitiés en quelques likes sur Facebook. Il suffit de liker quelques photos, de liker un statut ou deux, et cet ami qu'on croyait avoir oublié revient. Ou bien il suffit de ne pas le faire et au contraire de perdre un ami.
C'est ça.
Intéressant quand même, hein, de voir à quel point on a pas une juxtaposition, mais plutôt une superposition. C'est comme un monde qui existe au-dessus d'un deuxième.
Mm-hmm. Ben, il y avait cette anecdote-là il y a quelques années quand Facebook est arrivé, là, ça faisait peut-être un an ou deux, puis il y avait un type aux États-Unis qui avait 700 amis, puis à cette époque-là, c'était considéré comme étant énorme, et qui lance l'invitation, « Hey, les amis, je vais prendre une bière ce soir à 5 heures à telle... »
Il y a une personne qui s'est présentée.
Oh, yeah. Ouais.
Enfin, et les amis sur Facebook, c'est il y a des collègues, il y a des acquaintances, des connaissances, des et il y a de la famille, mais quelque part Facebook aplatit ces relations-là et tout devient à peu près le même. autant au niveau de l'intimité, de la durée de l'amitié, etc. Et donc là, quelque part, c'est là où il y a une certaine dissonance ou un manque de connexion avec la réalité. C'est justement que dans la réalité, les amitiés sont complètement différentes. Mmh. Il y a différents niveaux d'intimité.
Des forces.
Ben oui. Ouais. Ouais.
Et une amitié, c'est une relation. Et une relation qui est significative demande du travail. Mmh. Et ça, on semble l'oublier complètement. Mmh. Tu sais, que ce soit, un bon collègue au travail ou que ce soit une amitié entre, je ne sais pas, deux hommes, deux femmes, peu importe, ou que ce soit une relation amoureuse, il y a encore plus de travail. Et cette notion-là, elle est fondamentale. C'est comme si l'amitié est une espèce de voyage au paradis, tu sais, selon Facebook. C'est comme, ah, j'ai des amis, moi, vous savez, regarde, on est en train de prendre une bière, c'est extraordinaire! On est sur le bord du lac! Tu sais, mais... Oui, mais le travail dans tout ça, tu sais, c'est quoi, tu sais, c'est complètement évacué de la notion de... Et quand tu regardes les jeunes, là, je vais prolonger un peu, qui vont chercher l'éducation sexuelle par la pornographie, c'est la même chose. On va au raccourci, on va à la chose facile, à ce qui est idéalisé, mais on évacue complètement la notion de travail qu'il y a dans une relation entre hommes et femmes qui amène à une expression... de la vie sexuelle, mais on va juste à, tu comprends, on va juste à ce qui est le plus évident, le plus paradisiaque.
Puis superficiel.
C'est ça, ouais, c'est ouais, ça.
Ouais. C'est la superficialité, pour ouais. Babel et Babari, justement, c'est un
moteur.
Un moteur, ouais.
Alors justement, je crois que cette pièce, parce qu'encore une fois, je vais l'appeler pièce, va être capable justement de montrer, comme tu l'as expliqué, Marc, j'ai très bien aimé j'ai apprécié cette explication, qui va montrer le travail qui est en amont de ce qu'on voit, en fait. Donc, si on voit un produit fini, on voit une vidéo, on voit une publicité, etc., on s'imagine pas que c'est en fait quelque chose qui est construit, c'est une représentation, c'est une expression qui aurait pu être autrement, mais qui a été ainsi, et qui va influencer justement la pensée de la personne qui en témoigne. Ouais. Pour réfléchir à tout ça, mesdames et messieurs, une pièce qui s'appelle Babel et Barbarie, c'est au Winchester Street Theatre, ici à Toronto, du 2 au 5 septembre. Donc on a Marc Lemire et Dominique Manoun dans les studios de Choc FM pour nous en parler un tout petit peu, et je crois que ça a été super intéressant. Je vous remercie énormément d'être passé.
Merci à toi.
Donc la billetterie est sur leur site web collectifbus123.com pour toutes les infos, ou bien sûr sur Grand Toronto. Toronto.ca ou chocfm.ca. 8h40, on enchaîne avec Moodoïd, une petite chanson qui s'appelle La Lune. Restez avec nous.